Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète?
CO2, mon amour?
Personne ne sait quel sera l'aspect de cette planète dans 20 ans. Il y a des espèces qui s'adaptent très bien. L'humanité est une espèce très fragile. Les espèces qui s'adaptent, c'est celles qui arrivent à échanger d'une façon raisonnable, donner, prendre.
Avec Denis Chessou.
Nous avons un comportement totalement saccageur. C'est que les espèces qui durent, ce sont celles qui sont capables de s'adapter aux situations, c'est-à-dire de vivre en harmonie avec la nature.
Sur France Inter.
Nous sommes le pire sur ce plan. Et si nous ne changeons pas radicalement nos moyens, nous disparaîtrons.
Vous avez reconnu donc la voix d'Hubert Reeves, qui pose le décor aussi sur cette démographie qui va être l'objet de notre débat. Alors, une émission CO2 Mon Amour et qui rapproche les hommes, nous rapprochons de la nature, avec aussi des solutions, des actions. Et aujourd'hui, donc, ce débat autour de la démographie. Julien Michel et Raphaël Rousseau sont à la technique et assistés de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. On va commencer par une petite humeur. Alors, on le sait, Anne Hidalgo est une femme formidable. Après avoir redonné les voies sur berge aux cyclistes, aux joggeurs et aux piétons, eh ben, elle les redonne aux poissons. Non, je plaisante, elle peut pas être... Non. Vous savez, on a toujours besoin de bouc émissaire, c'est comme ça. Et moi, le changement climatique, vous ne m'avez pas invité durant des années. Eh bien, merci, car depuis quelque temps, je m'invite tout seul à Davos, sans aucune réservation. Davos, je vous le rappelle, c'est une sympathique bourgade montagnarde, où vous avez plein de gens en manteau de fourrure d'animaux morts sur le dos pour se tenir chaud, où un hôtel 3 étoiles fait figure de yourte zadis à Notre-Dame-des-Landes, et où le prix du petit déjeuner n'est pas si éloigné du PIB du Burkina Faso. Bon, alors évidemment, j'exagère toujours un petit peu, je sais, je suis comme ça. Alors oui, le réchauffement climatique, moi je figure au premier rang des risques futurs, avant tout pour le business. Hein. Alors oui, bien sûr, il y a les pauvres, pas solvables, qui ont de l'eau jusqu'aux genoux, et d'autres qui n'ont plus assez d'eau pour vivre. Et ouais, c'est ça le réchauffement climatique, un peu à l'image de nos sociétés d'ailleurs. Et votre président Macron, lucide, pragmatique et communicant, a placé le climat en tête des défis, justifiant d'investir dans les biens communs, ça on peut signer, redonner un sens à la mondialisation, plaidant pour un nouveau contrat mondial. Alors on n'est pas encore dans le contrat naturel de Michel Serres, mais nouveau contrat mondial. Le climato-sceptique, vous savez, il y a 10 ans, il avait pignon sur rue et les plateaux de télé. Aujourd'hui, il dort à la cave avec son déni comme oreiller. Car depuis 200 ans, à force de mettre le feu doux ou vif sous la casserole, petit à petit, moi je chauffe vos esprits. J'allume vos inquiétudes et celles des réassureurs. Et risque suprême, je peux faire cramer vos dividendes. Alors dans le ciel, ma lessiveuse tourne à plein régime. Un coup au nord, un coup au sud. Engagez-vous, faites des COP, 21, 22, 23, des recop, 50 ou 100. Mais si on ne change pas vraiment le logiciel, ça va être compliqué. Compliqué oui, mais... encore possible. Les jeunes le savent peut-être mieux que les vieux. Donc ne vous résignez surtout pas, car c'est toujours un peu possible de m'apaiser un peu. Et alors chez vous en France, les bottes aux pieds, nées d'un filet de bave à Balême sur le plateau de Langres pour la Marne, à Source-Seine en Côte d'Or, jaillissant d'une caverne dans une reculée du Doubs pour la Loue, les fleuves, les rivières enflent, boursouflent de pluie et s'invitent de force malheureusement chez nous. Et évidemment qu'elles se sentent bien quand les champs, les prés, les zones humides sont libres pour accueillir leurs excès à la sortie du lit. Mais les rivières, les mêmes rivières ne savent pas où s'éponger dans les villes, car le bitume, c'est pas bon pour leur santé. Alors c'est comme les colères, savez, ça déborde de haut, de trop. Aucun plaisir à faire pleurer les hommes, les rivières font juste leur métier d'eau. Et quand même, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous, dans les grandes surfaces, on s'étripe pour une promo, c'est formidable, sur une pâte à tartiner mondiale, à base de sucre, d'huile de palme et un peu de noisette. Véritable fabrique à enfants obèses et bonheur des cardiologues. Alors oui, mes amis, il n'y a pas de doute, l'humanité grandit en sagesse et la civilisation est enfin en marche. Allez, on va parler donc de démographie aujourd'hui, donc vous l'avez compris, avec Virginie Resson, qui est analyste en géopolitique prospective, il va arriver à le dire, avec un ouvrage aux éditions Robert Laffont qui s'appelle 2038, les futurs du monde, avec Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, président de l'Institut Momentum, qui est un laboratoire d'idées sur les issues de la société industrielle et les transitions pour amortir le choc social de la fin du pétrole, et Gilles Pison, qui est chercheur démographe à l'INED, donc l'Institut National des Études Démographiques, qui a sorti dans la collection chez Rue des Écoles, la démographie mondiale, collection Le Monde Sup. J'ai très envie de commencer par vous pour savoir, Gilles Pison, depuis quand en fait on se compte les uns les autres ? En fait, quand est née véritablement la science démographique, quoi, mais...
J'imagine que les dirigeants, les rois, ont toujours cherché à compter leur peuple pour l'administrer. Et il y a quelques siècles, le signe d'une bonne gouvernance par un roi, un dirigeant, c'était l'observation que la population augmentait. Donc, selon qu'elle diminuait ou augmentait, on pouvait juger que le roi était un bon roi ou un mauvais roi. Et par exemple, sous la période de Louis XIV, il y a eu une grande entreprise pour dénombrer la population de la France. Et surtout, il y avait un grand débat à l'époque. Est-ce que la population diminue ou augmente ? Beaucoup de philosophes, on ne les appelait pas des économistes, disaient que la population diminuait, ce qui était donc pouvait permettre d'accuser le roi de mauvaise gouvernance. Et en fait, le dénombrement a permis de montrer que probablement on se trompait et qu'elle augmentait à l'époque. Très lentement, rien à voir avec la croissance démographique d'aujourd'hui. Mais c'est important pour un dirigeant, pour des élites, de savoir combien il y a d'habitants. Et en France, alors, on recense la population avec les méthodes pratiquement d'aujourd'hui que depuis deux siècles. C'est sous Napoléon qui a eu le premier recensement. Les premiers recensements ont été de mauvaise qualité. Et donc, on a de bons recensements comme aujourd'hui que depuis un peu plus de 100 ans. Hein.
Mais là, chez les Grecs ou nous, du côté de l'Antiquité, comment on faisait ?
Alors, ils se comptaient, mais pas tout le monde. Hein. Il y avait les citoyens, mais on comptait à part les femmes, les esclaves, bien sûr.
Ah bah oui, ça n'existait pas, ça.
Donc, l'idée qu'on compte et que chacun compte pour un... Les hommes, les femmes, les enfants, c'est très récent. D'accord. Et les gens du Nord, les gens du Sud, là aussi, de les compter ensemble et l'idée qu'on est une population mondiale qui affronte les mêmes problèmes. Pendant très longtemps, on comptait complètement à part les populations des différentes régions ou des catégories.
Alors, Gilles Pison avec nous, Virginie Resson et Yves Cochet. On débute par ce premier disque et après on rentre véritablement dans ce débat donc, sur la démographie. Un levier pour préserver la planète, là, c'est aussi donc, 15 000 scientifiques qui nous le disent. Est-ce que c'est la bonne solution ? Explosion démographique, bombe à retardement ou bien pétard mouillé ? On va voir cela avec nos invités dans CO2 Mon Amour sur France Inter.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Je m'envoie. Et au côté.
Mélissa Lavaux sur France Inter, choisie par notre programmatrice Muriel Pérez. Bienvenue. Alors, bienvenue à qui? D'abord, bien sûr, à vous, mais aussi aux 220 000 enfants, on va dire à peu près, qui sont nés aujourd'hui dans le monde. Alors, peut-être d'abord un constat. Les humains, combien de divisions? Et évidemment, la Terre, avec nos modes de vie d'occidentaux sans limite, qu'est-ce qu'elle dit? Démographie et écologie sont dans un bateau. On est là pour en débattre avec Virginie Resson, avec Yves Cochet et avec Gilles Pison, donc démographe. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Parce qu'on voit bien qu'en 50 000 ans, l'humanité donc a atteint 2,5 milliards d'individus, on était en 1950. Et qu'après, 40 ans plus tard, on est à 5 milliards. Et puis, 25 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, on est à 7 milliards et demi. Qu'est-ce que ces chiffres racontent aujourd'hui, Gilles Pison?
Alors souvent, je rappelle qu'en 1800, il y a deux siècles, on était 1 milliard. Et pourquoi 1800? C'est parce que c'est le moment où la population mondiale s'est mise à croître rapidement. Jusque-là, il y avait à peu près autant de naissances que de décès. Beaucoup de naissances, mais beaucoup de décès. Et à partir d'il y a 200 ans, apparaît un excédent des naissances sur les décès dans une partie du monde, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Pourquoi? C'est les premiers progrès d'hygiène et de la médecine du XVIIIe siècle, les progrès socio-économiques au XVIIIe siècle qui font baisser la mortalité. Et résultat, plus de naissances que de décès. Et cet excédent, après, il se répand partout sur la planète lorsque les autres régions du monde, l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, connaissent, si vous voulez, ces progrès sanitaires et ces progrès socio-économiques. Voilà. Donc, la population a été multipliée par 7,5 depuis deux siècles. Ça s'était jamais vu. Alors, il y a une petite nuance, c'est que si la population continue d'augmenter, parce qu'il y a trois fois plus de naissances que de décès, depuis 50 ans, elle augmente, mais à un rythme d'accroissement qui diminue. Il a atteint un maximum, ce taux d'accroissement démographique, il y a 50 ans, de plus de 2% par an.
Donc ça, c'était le pic.
Et aujourd'hui, c'était dans les années 60. Et aujourd'hui, 1,2... la population continue d'augmenter autour de 1%, oui. Plus de 1%. Et pourquoi? C'est parce que les femmes, les couples, ont moins d'enfants et de moins en moins. La moyenne mondiale, c'est 2,5 enfants par femme. C'était le double, 5 enfants, en 1950.
Mais pas en Afrique subsaharienne.
Alors, aussi en Afrique subsaharienne, les femmes ont de moins en moins d'enfants. Simplement, les évolutions se font avec retard par rapport aux autres régions du monde. La moyenne de 2,5, elle couvre une grande disparité. C'est 4,5 enfants par femme en Afrique, mais 2,1 seulement en moyenne en Asie, donc le seuil qui permet le remplacement des générations. 2,0 en Amérique latine, 1,9 enfants en moyenne par femme en Amérique du Nord et 1,6 en Europe. Si vous voulez, toutes les régions du monde ont maintenant un niveau de fécondité, donc le nombre d'enfants qu'ont les femmes, qui est soit égal au seuil de remplacement, soit inférieur. Donc ça veut dire qu'on est vers la croissance zéro, mais elle ne va pas venir tout de suite.
Alors Virginie Resson, donc vous avez sorti 2038, les futurs du monde. Je le disais, vous êtes prospectiviste, analyse en géopolitique. Vous avez créé donc un laboratoire qui s'appelle l'EPAC. Cet ouvrage est chez Robert Laffont. Et vous avez des gens qui vous disent, mais est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel le nombre d'humains ne serait plus supportable?
Le premier qui a évoqué ça, c'est Robert Malthus.
Pasteur british.
Voilà. Et donc, tout dépend quel est le critère. Le seuil, il est pas un chiffre en valeur absolue, il est un chiffre rapporté à des ressources, les ressources qui sont nécessaires pour la survie de l'espèce, la survie des humains. Et en ce sens, on peut même s'interroger sur le sens de compter les hommes, puisqu'on va amalgamer dans ce nombre de 7 milliards et demi des gens qui consomment 20, 30 fois plus que d'autres, si on rapporte ce que consomme aujourd'hui un Européen ou un Américain avec quelqu'un qui vit en Amazonie ou dans la forêt primaire indonésienne, évidemment, on est sur un écart extrêmement grand. Donc, ce qui est important, quand on évoque le chiffre en valeur absolue de la population mondiale, c'est de le rapporter à un mode de vie, à une consommation de ressources, puisque, évidemment, le problème, c'est que les ressources dont dépend cette population mondiale ne sont pas illimitées. Mmh. Et c'est dans cette équation que se joue la tension qui est le sujet de cette émission, je crois. C'est alors, vraiment absolument. Le rapport aux ressources davantage que le nombre en tant que tel, puisque, juste pour l'anecdote, ça fait sourire, mais si aujourd'hui on réunissait, on faisait un grand flash mob, pour prendre une expression, voilà, on fait un grand flash mob pour venir écouter l'émission en direct, et on peut réunir toute la population mondiale sur la Corse. Sur le territoire de la Corse.
Ils vont être contents.
Voilà, absolument. Donc, on va pas le faire, parce que je suis pas sûr que les Corses soient contents, mais tout ça pour dire qu'on est vraiment, on n'est pas dans un problème de nombre, non, on est vraiment dans un problème de ressources.
On est en gros sur 8500 à 9000 km² de mémoire, ça doit être
absolument,
ça, la Corse.
Ben oui, donc, bien sûr, ça. Oui. Mais ça veut dire qu'on laisse en gros un mètre carré à chacun pour respirer, s'asseoir, ce qui est, oui. Et, donc ça n'a pas de sens en tant que, la valeur absolue ne dit rien. Ce qui nous dit, c'est quand on rapporte cette valeur absolue aux revenus des populations et donc à leur capacité de consommer et qu'on multiplie par leur mode de
alors,
vie.
Je vous propose d'écouter donc quelqu'un, et après évidemment réaction de Yves Cochet aussi, en 1974 donc René Dumont, donc agronome de son état, donc s'était présenté à la présidentielle, c'était donc le premier écologiste qui se présentait, et voici donc ce qu'il disait.
À l'origine, l'homme est un animal comme les autres, un peu différent quand même, qui va dans la forêt, cueille les productions végétales naturelles, chasse et pêche. Il y a 10 000 ans, il invente l'agriculture, le champ cultivé, la gère. À ce moment-là, il laboure, il défriche, il déboise, et il commence à provoquer une érosion qui est encore visible tout autour de la Méditerranée où la roche à nu apparaît. Il a donc sans cesse réduit la capacité productive de notre planète. Il y a déjà trop d'hommes à la surface du monde. L'agriculture, depuis 1959, a du mal à suivre la courbe de croissance de la population, année après année. La vitesse de croissance de la production alimentaire ne suit plus celle de la population. Inégalité croissante, c'est la situation. Inégalité croissante entre les nations. Inégalité croissante entre les gens d'une même nation à cause de la surpopulation.
Donc ça, c'était René Dumont, on était en 1974. Évidemment que ces théories-là peuvent être tout à fait combattues. Il était quand même dans la droite ligne de Thomas Robert Malthus. Réaction peut-être Yves Cochet aussi donc à cette même question, quoi, du point de départ. Sommes-nous trop nombreux? Vous en avez parlé dans l'anti-manuel d'écologie, donc aussi dans moins nombreux, plus heureux. Quelle est votre position, vous?
Bien, je crois en effet que le chiffre seul ne suffit pas, il faut l'avoir, le chiffre d'individus, mais que, comme vous disiez madame, c'est l'impact qui compte, l'impact par individu ou par pays. Et dans ce cas-là, il y a des grandes inégalités entre le Nord et le Sud, entre les nations, entre les gens de l'Occident, disons, et puis les autres. Et on voit que cet impact... Et c'est ça qui crée les problèmes écologiques, climatiques, de biodiversité et autres actuellement. Et donc, il faut diminuer cet impact. Alors, on peut, pour diminuer cet impact, plutôt que d'en parler globalement, le diviser en trois facteurs. Il y a le facteur du nombre, donc de la population intrinsèque, c'est un nombre, 7,5 milliards actuellement, multiplié par ce qu'on appelle en anglais l'affluence. Bon, en gros, c'est le niveau de vie, disons, le niveau de vie, on peut le mesurer soit comme l'empreinte écologique par hectare global, par habitant et par an, ou bien alors en nombre de kilowatts instantanés disponibles pour un habitant. Par exemple, un États-Unien a à peu près 10 kilowatts sans arrêt à sa disposition à dépenser, hein, alors qu'un Sénégalais n'en a que 0,5. Donc, on peut dire qu'un Américain, c'est 20 fois plus qu'un Sénégalais, de ce point de vue-là. De la même manière, on peut aussi multiplier, c'est le troisième terme de cette équation, par le type de technologie qui permet de vivre. Pour dire rapidement, les technologies énergétiques polluantes comme le nucléaire ou les fossiles, eh ben, c'est moins bien au point de vue de l'impact sur l'environnement, sur la biosphère, que les technologies plus douces comme le solaire ou l'éolien. Et donc, c'est cette multiplication P, population, multipliée par niveau de vie, multipliée par T, la technologie, qui donne un impact global et qu'on mesure précisément, par exemple, par le changement climatique ou la perte de biodiversité. Alors, jusqu'à présent, tous les politiques, que ce soit aux plus basses échelles de la commune ou du département, jusqu'au COP mondial, par exemple, pour le climat, disaient, bon, on va agir, en effet, sur les technologies, par exemple. Hein, on va faire une autre technologie, va en remplacer la plus polluante, et donc ça va marcher. Ou bien, le niveau de vie, ben, il faut faire attention, il faut évidemment faire dans la sobriété, l'efficacité, donc on va fermer la lumière en sortant d'une pièce, etc. Mais jamais on ne parle de la population, or, c'est quand même un facteur extrêmement important. D'autant plus que, quand on regarde dans ce que je disais, par exemple, un Américain égale 20 Sénégalais, ou bien alors un Européen vaut 10 Sénégalais, eh bien, il ne faut pas trop accuser ou montrer du doigt ces femmes du Sud dont le ventre est toujours plein, n'est-ce pas? Mais il faut regarder les Européens eux-mêmes. Et donc, un enfant européen de plus, eh bien, c'est la même chose que 10 enfants sénégalais de plus. Donc, il n'y a vraiment pas que le chiffre en tant que tel, c'est l'impact qui compte. Et dans ce cas-là, bien entendu, je pense. Alors moi, je donne des mots d'ordre un petit peu provoquants, mais qui laissent à réfléchir.
Ah bah, vous y étiez, supprimer les allocations au troisième enfant, vous aviez fait ça. Donc...
Et même mieux, peut-être inverser l'échelle des allocations. Ouais. C'est-à-dire, comme disaient nos amis iraniens, voilà une dizaine d'années, en anglais, « one is good, two is enough ». C'est-à-dire qu'à partir du troisième enfant, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir des allocations. C'est une politique dénataliste, mais je répète que la politique française actuellement, à la suite de M. Alfred Sauvy, qui était un populationniste effréné, et même créateur de l'INED, n'est-ce pas? Eh bien, plus on a d'enfants, plus le pays est puissant. C'est une stupidité absolue pour nous, écolos.
Bon, alors, donc, nataliste d'un côté, contre cette natalité, on va dire, entre guillemets, un peu débridée, donc, de l'autre. Alors, c'est vrai que c'est des sujets, quand même. Tout à l'heure, je vous disais, c'est pas un sujet tabou. Vous me disiez, ben non, ça peut être encore un sujet tabou, cette histoire-là, Virginie Resson.
Oui, absolument. On a, au LEPAC, on travaille régulièrement sur cette question, non pas pour dire... Il n'y a pas de positionnement pour dire pour ou contre, ou c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ça l'enjeu.
Non, on n'est pas dans le bien, c'est pas bien.
Voilà,
là,
exactement. Je vous rassure. Non, mais je cite ça parce qu'on reçoit beaucoup de courriers sur le bien ou pas bien.
Ah oui.
C'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de gens qui se positionnent là-dessus. Il y a des tas d'associations antinatalistes ou au contraire qui sont pour la liberté individuelle et qui le revendiquent fort. Et on a reçu plusieurs fois des courriers quand on montre que le lien n'est pas uniquement population réchauffement climatique, il est effectivement plus complexe et qu'il y a plusieurs paramètres et que ne vouloir agir que sur la population, ça n'aboutira pas au résultat escompté de toute façon.
Est-ce que vous êtes d'accord là, parce que si on
ça suffira
que
pas.
J'ai énoncé, disons, trois facteurs principaux.
Exactement.
Le nombre, la population, l'affluence, c'est-à-dire le niveau de vie, et puis le type de technologie.
Ouais.
Alors, il faut agir sur les trois. Pour le moment, on a agi que sur les deux derniers, c'est-à-dire le niveau de vie et les technologies. Mais je pense qu'il faut songer par des politiques qu'on connaît, hein, l'alphabétisation des petites filles, le développement du planning familial, une information et des propositions qui viennent des gouvernements, et aussi paradoxal que cela semble, eh bien, c'est le gouvernement iranien qui, dans les années 80-90, hein, sous la république quand même islamique de l'ayatollah Khomeini, a fait un effort démographique tout à fait considérable, et que je salue. Les Iraniens sont une grande civilisation, d'autant plus que c'est là, finalement, enfin, dans ces régions-là, entre l'Égypte, disons, et l'Iran, que se sont développées les villes. Et les villes ne se sont pas développées parce que c'est une aspiration des gens à vivre ensemble, c'est parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs, parce qu'ailleurs, c'était le désert. Et donc, je pense, les Iraniens sont une vieille civilisation, et ils ont beaucoup à nous apprendre, notamment en matière démographique. Il faut être sobre à la mesure du territoire où on habite.
Oui. C'est ça. Bon, c'est toujours effectivement la question de la mesure. Virginie Resson, je vous en prie.
Oui, mais je dis juste que quand on énonçait la complexité du problème et qu'on concluait en disant donc la Terre n'est pas forcément surpeuplée, enfin il n'y a pas de déterminisme en tout cas, que c'est pas aussi simple que ça, on a reçu des lettres nous accusant d'être criminels, irresponsables, voilà.
Voire anti-humanistes.
Absolument,
aussi.
Absolument. Oui, on a eu à peu près tous les sobriquets. Et pour autant, ça change pas les données. Là où je vous rejoins pas complètement, enfin je vous rejoins sur le fait que c'est plurifactoriel, évidemment, mais sur le fait qu'on ait beaucoup essayé sur les technologies, pour passer à des technologies non polluantes, et sur le niveau de vie, en fait, c'est plutôt le mode de vie, d'ailleurs, que je trouve que le niveau de vie, moi, je pense qu'on est au tout début de cette histoire-là, qu'on est loin d'avoir essayé, d'avoir fini cette transition-là, ce changement-là. On parlait des questions alimentaires. En termes alimentaires, on sait très bien qu'on est aujourd'hui, on gaspille à peu près la moitié de la production mondiale, et que cette production mondiale suffirait, si on répartissait, si on modifiait nos régimes alimentaires, suffirait largement à nourrir toute la population mondiale aujourd'hui, et même
ça,
en 2050.
C'est sur le papier, pardonnez-moi.
C'est sur le papier, mais oui. Bien sûr. Mais on peut prendre l'exemple de la viande, on pourrait en prendre d'autres. Hein, mais la surconsommation aujourd'hui de denrées, autrement dit le gaspillage, elle est gigantesque et elle nous laisse une marge de manœuvre immense. Par exemple, on pourrait prendre d'autres exemples, mais c'est juste pour dire que c'est plus facile, selon moi, de changer un mode de vie et un régime alimentaire que de vouloir contrôler les naissances, même si en revanche, tout ce qui est lié à l'éducation, évidemment, doit être encouragé, l'éducation, la contraception, etc., l'information.
Gilles Pison, je vous en prie, notre démographe de l'INED.
On parle des différents leviers sur lesquels on peut agir. Yves Cochet parlait des trois domaines. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. À court terme, et pour un démographe, court terme, c'est les 10, 20, 30 prochaines années. Les courbes démographiques sont tracées. On ne les changera pas. On n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'habitants sur la planète d'ici 2050.
Comme on risque peut-être de ne pas échapper à 2 degrés, à 3 degrés de plus aussi d'ici la fin
du siècle. Et pour quelle raison ? C'est parce que... bien sûr, partout sur la planète, les humains changent de comportement. Et je vous ai dit, en moyenne, les femmes ont 2,5 enfants chacune. Donc ça a énormément baissé par rapport aux 5 enfants qu'elles avaient il y a 50 ans. Hein. Et ça continue de baisser. Mais il n'en résulte pas tout de suite un arrêt de la croissance démographique. Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement sur la planète beaucoup, une proportion importante d'adultes, de jeunes adultes qui ont l'âge d'avoir des enfants. Même si chacun d'eux n'avait pas 2,5 enfants, c'est la moyenne observée, mais 1,5 enfant ou 1,6, comme en Europe, comme en Chine, eh bien la population continuerait d'augmenter encore, parce qu'il y aurait encore plus de naissances que de décès. C'est ce qu'on appelle l'inertie démographique. Donc cette jeunesse de la population mondiale fait qu'on va encore connaître une croissance démographique. Alors, tout ce que l'on peut faire pour favoriser le planning familial, la réduction de la taille des familles, bien sûr, et c'est par une instruction, une éducation des femmes, là où elles n'ont pas accès à l'éducation, un développement socio-économique, et ça, c'est sûr que c'est l'Afrique qui doit être une priorité. Donc, mais déjà, partout sur la planète, les femmes, les couples font le choix d'avoir peu d'enfants. Et donc, il n'y a pas 36 solutions, si vous voulez, pour arrêter la croissance. Comment faire augmenter la mortalité pour revenir à il y a 2 siècles.
Vive les personnes, vive le les souhaite, virus, vive les
par
grippes.
Par une émigration massive vers Mars, c'est une illusion.
Non.
Par une baisse drastique de la fécondité, donc le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde, c'est déjà le cas. C'est ce qui se passe, mais il ne s'ensuit pas immédiatement un arrêt de la croissance.
Alors, je vous en prie, Yves Cochet.
Oui, alors je suis un peu divergent avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où c'est une... Bon, disons l'horizon 2050, hein, parce que c'est par exemple la loi de transition énergétique, c'est 2050, bon, c'est la moitié de notre siècle, etc. Alors, bien sûr que si toute chose était égale par ailleurs, l'inertie démographique dont vous parlez montre qu'en effet, on arrivera peut-être, d'ailleurs, la division des populations de l'ONU, là c'est toujours au mois de juillet, tous les 2 ans, donne les chiffres, justement, prévisionnels, dit, ben oui, on va arriver peut-être à 9,7 milliards, et puis après, on sera 11,2 milliards en 2100, etc.
C'est ce qu'ils disent,
oui. À supposer que toute chose soit égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de grande catastrophe. Or, moi, je subodore que, pour des raisons écologiques, enfin, qu'on connaît, il y a une dizaine de problèmes écologiques majeurs, il est hélas probable que dans les 30 ou 35 années qui viennent, on ait de ces catastrophes écologiques, que ce soit climatiques, biodiversitaires, qu'elles soient même de sorte de l'alimentation, ou bien en effet des épidémies. S'il y avait à la fois...
C'est ce que dit Jean-Louis Etienne, qui est médecin, donc il rappelle souvent qu'on risque d'avoir aussi quand même des problèmes de l'infiniment petit, autrement dit effectivement de virus que l'on ne connaît pas forcément, etc.
C'est ça. Ben, on a vu que si on avait, disons, une propagation aussi contagieuse que la grippe, mais avec une mortalité aussi forte que Ebola, mais Ebola n'était pas contagieux beaucoup.
Mais extrêmement contagieux, je m'excuse. Oui, oui. C'est justement ça qui a fait que ça n'a jamais pu produire de grosses épidémies. C'est tellement contagieux, tellement mortel, que tout de suite, les villageois et tout ont compris, on ne touche plus les morts, on arrête. Oui. Et ce qui a provoqué des épidémies, c'est quand on a voulu transporter, soigner les malades. Donc ça a contaminé les hôpitaux. Détrompez-vous, sur ce sujet, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas compter sur des épidémies meurtrières, genre grippe.
Il y en a eu quand même quelques-unes depuis quelques siècles.
Pour résoudre un soi-disant problème démographique, on est de mieux en mieux outillés pour prévenir, contrôler, traiter les problèmes de santé comme les problèmes alimentaires. Vous avez de moins en moins de famines. Toutes les famines qui ont lieu, c'est des guerres civiles qui empêchent l'aide alimentaire d'arriver. Mais il y a de l'aide alimentaire et là où il y a des mauvaises récoltes, les gens ne finissent pas par mourir de faim comme c'était le cas au XVIIIe siècle. Donc, il ne faut pas rêver. Je pense que le principal risque, c'est une météorite de la taille de celle d'il y a 60 millions d'années qui a
dans le golfe
entraîné
du Mexique,
la disparition. Voilà. Oui. Mais là aussi, quel est le risque d'un tel événement infini. Donc il ne faut pas compter dessus.
On n'y pensait même pas.
Oui, non, je veux quand même de nouveau dire qu'il peut être possible que certaines des 10 limites de la planète que met en avant, par exemple, l'Institut de Résilience de Stockholm, eh bien, soient atteintes et que ce qu'on appelle un tipping point, une sorte de point de bifurcation, soit dépassé, de telle manière que des événements graves et irréversibles aient lieu et donne lieu à des famines, à des sécheresses, ou au contraire à des inondations, qui auront des répercussions sur le nombre d'habitants. On l'a vu lors des petits épisodes, disons, récemment pour les tempêtes tropicales dans les Caraïbes, on l'avait vu pour Katrina aussi, il peut y avoir des épisodes climatiques ou des épisodes liés à la biodiversité qui sont inattendus et, j'allais dire, intractables, comme on dit en anglais, par le style de gouvernement actuel. Et je pense qu'une épidémie pourrait le faire, comme ça l'a fait, je signale, vous allez me dire, oui, mais maintenant on sait faire. Non, la peste en 1348, eh bien c'est la moitié de la population de l'Europe, et c'était la même chose pour la grippe d'ailleurs, en 1918. Il y a eu plus de morts par la grippe qu'il y en a eu pour la guerre de 14-18.
C'est
donc
cool,
ça peut arriver.
Virginie Resson.
Alors, je voulais juste un tout petit peu revenir en arrière sur la conversation, sur la façon de poser la question. Comment est-ce qu'on fait, en gros, pour diminuer la population? Alors, d'abord, moi, je souscris pas à cette idée-là parce que toutes les politiques natalistes, dirigistes, ont abouti à des résultats assez catastrophiques. On peut se souvenir de ce qui s'est passé en Chine ou même au nord de l'Inde, par exemple. Mais surtout, ce qui me gêne énormément dans ce positionnement-là, qui se centre sur le contrôle des naissances, exactement, c'est que ça permet d'écarter les problèmes et de dire la responsabilité, elle va aux autres. Et or, si on regarde, historiquement parlant, même aujourd'hui, la responsabilité du réchauffement climatique, de la perte du recul de la biodiversité,
etc.,
c'est ni les Sénégalais qui font beaucoup d'enfants, ni les Pakistanais, c'est les Européens et c'est l'Amérique du Nord et quelques autres pays occidentaux. Donc, cette façon de dire, il faut contrer la démographie, en Afrique en particulier, c'est comme si, et c'est souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on commence on lit des articles sur 2050, sur le futur, ça commence toujours en 2050, nous devrons nourrir ou la planète devra supporter 2,5 milliards de... Comme si c'était eux les responsables finalement de tous nos problèmes. Alors que les problèmes, ils sont déjà maintenant et c'est certainement pas ces 2,5 milliards supplémentaires. Et donc c'est vraiment la façon de poser la question pour moi est très importante si on veut mobiliser les gens autour effectivement d'un vrai problème de ressources, un vrai problème de rupture écologique et écosystémique, plutôt que chercher par des réponses trop sectorielles et qui fait qu'on déresponsabilise beaucoup de gens.
On sent bien les différentes sensibilités, donc c'est tout à fait intéressant. Donc on doit dire qu'on a du grain à moudre et du grain, on va en parler parce qu'on va parler aussi d'alimentation. On s'offre une petite pause musicale et nous revenons sur France Inter dans C'est au de mon amour. Après qui ? Les Innocents.
Colore le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs et coule dans le fleuve la facture en mort. Singe j'en vois de toutes les couleurs. Pour les cieux, mes frères s'engagent sur des routes à l'envers. Mais là-haut, décide, fais le ménage, fais le vide sur la peau. Sur les hommes comme le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour il me révèle en chair de poule, en bleu du ciel. Et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami,
natalité baisse, ce qui est lié à la crise, à l'arrivée de Christine Angot dans On n'est pas couché, et aux évolutions des politiques familiales. Vous savez, c'est l'expression de la mauvaise santé générale de la nation. C'est ce que je dis aux meufs quand je prends les râteaux en boîte. Mais c'est ça, garde ton numéro de téléphone et participe à la mauvaise santé générale de la nation.
CO2, mon amour.
Notre radio publique diffusera chaque matin un message d'encouragement martial pour que l'auditeur soit accompagné dans sa démarche procréatrice.
Avec Denis Chessou.
On enlève ses vêtements, on fait des assouplissements, on regarde Bobonne dans les yeux. Tiens. Voilà du boudin, voilà du boudin.
Sur France Inter.
Ah ben oui, c'est comme ça. Merci beaucoup, cher Daniel Morin. Je ne sais pas, peut-être que vous reproduisez en ce moment en écoutant l'émission. Tout est possible. Donc, la démographie, aujourd'hui avec Virginie Resson, avec Yves Cochet, avec Gilles Pison. Donc, on a pas mal de sujets encore sur la table. Je parlais effectivement de l'alimentation. Vous avez commencé à en parler. On va juste rappeler que 1000 calories de graines vont être métabolisées directement par un cochon, par une poule, alors qu'ils vont en absorber les trois quarts sans les restituer, et qu'on a quand même la moitié aujourd'hui de la production céréalière mondiale qui est donc consacrée aux animaux. Alors là, on a quand même quelque chose d'extrêmement important et on peut sûrement les uns les autres agir.
Absolument.
Virginie Resson, vous en parlez très bien dans votre
oui, ouvrage. on montre sur des graphiques aussi comment, en fonction de son régime alimentaire, on peut avoir un impact direct, effectivement, sur l'équilibre écologique mondial. Ça, c'est déterminant de prendre la mesure de l'action possible à l'échelle individuelle. Et l'alimentation est certainement un des moyens les plus faciles, les plus accessibles. Et juste pour prendre un chiffre je crois que j'ai pris dans un livre de Hervé Lebras, si je me trompe pas, où il dit que si aujourd'hui tout le monde se nourrit de la même façon que les Japonais, en gros, on peut, avec la production actuelle, la production agricole actuelle, on peut nourrir 8 milliards d'habitants. Si tout le monde se nourrit comme les gens au Bangladesh, c'est 12 milliards d'habitants. Mmh. Et si tout le monde se nourrit comme en France, c'est 3 milliards d'habitants ou 4 milliards, je sais plus. Donc tout ça pour dire que la variable, l'impact du régime alimentaire de tout un chacun est énorme.
40-45% nous de carner notre alimentation occidentale. Pour
absolument.
Faire... Après, il y a plein de nuances. Hein, donc,
oui, bien sûr.
Bien sûr. Mais c'est en gros ce chiffre.
Mais là où on peut se réjouir quand même aussi, c'est de voir que globalement en Europe, la consommation de viande diminue, à tendance et plutôt sur une phase descendante, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Enfin, je dis une bonne nouvelle sur le plan écologique, après chacun interprète comme il veut. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai aspect générationnel, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes mangent moins de viande que leurs aînés, et comme quoi la prise de conscience, le renoncement sans doute est moins difficile à 25 ans ou à 20 ans qu'il ne l'est peut-être
et puis,
à 60.
C'est plus un marqueur social, si vous voulez, pour les jeunes, donc,
qu'il
a toujours été, lorsque l'on voit des classes moyennes donc, qui émergent, c'était le cas de la Chine, c'était le cas de l'Inde. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, l'Inde, je fais une petite incise, parce que j'ai découvert dans votre ouvrage que ce premier, on va dire, pays le plus végétarien quand même du monde, devenait le premier exportateur de viande bovine.
Pour répondre effectivement à la demande de viande des pays asiatiques, en particulier de la Chine et du Vietnam. Oui, tout à fait.
Alors, un message qui est arrivé, 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis Pichet, Théo de Mon Amour. Je voulais vous féliciter d'avoir choisi le thème de la démographie pour votre prochaine émission. Une petite précision. Comme nous l'a appris récemment le bilan démographique de l'INSEE, la population française a vu son effectif augmenter de 230 000 habitants par rapport à l'année dernière, malgré une petite baisse de la natalité et une petite baisse du taux de fécondité. Mais l'effectif de population continue de croître. Par conséquent, je propose la création d'une allocation de contraception. Pour la France, bien sûr, mais aussi pour tous les autres pays qui le voudraient, et notamment en Afrique, qui permettrait de lutter contre les grossesses non désirées, et ça coûterait pas plus cher que de verser des allocations familiales.
Voilà, alors c'est pas du livre coché dans le texte, mais enfin bon.
on ne peut qu'approuver. Maintenant, ça, c'est une incitation. Je ne sais pas si elle aura beaucoup d'impact. C'est un peu comme d'ailleurs les allocations familiales elles-mêmes. C'est plus symbolique le fait que moi je veuille inverser la courbe en disant, bah, pour le moment, au moment où on a un premier enfant en France, on n'a pas d'alloc, mais c'est à partir du deuxième. Et après, au troisième, c'est encore plus que proportionnel. Si on inverse l'échelle, ça aurait peu, je pense que vous serez d'accord avec moi, ça aurait peu d'impact direct. Mais du point de vue symbolique, ça montre que la République des Jules, qui était quand même très nataliste pour mettre la pâtée aux Allemands après la défaite de 1870, et c'est ce qui s'est passé hélas entre 14-18, cette politique nataliste était liée à la chair à canon. Il fallait des jeunes pour faire la guerre. Et maintenant, une partie des pays du monde, des nouveaux pays du monde, il n'y avait que 50 pays dans le monde il y a 70 ans, maintenant il y en a 193. Les gens se disent, si on doit être puissant, eh bien il faut qu'on soit nombreux. Eh bien c'est une erreur à la fois politique et écologique, mais je pense qu'il y a des méthodes, disons, moins radicales que le fait de proposer une allocation. Non, il peut y avoir, encore une fois, des méthodes essentiellement culturelles, éducationnelles, informationnelles, mais plus fortes que celles de maintenant, et qu'au moins l'État soit neutre en matière, disons, d'incitation. Et donc, on peut supprimer peut-être les allocations familiales.
Bon, ça c'est une sensibilité de Yves Cochet. Je vous en prie, Virginie Ressons.
Juste, là, c'est une réaction très personnelle de mère de famille. Quand on fait des enfants... De trois enfants, en l'occurrence. J'en ai fait que deux, sur les trois. Je ne suis pas sûre que tout le monde consulte... Fasse la différence ou fasse son choix en fonction des allocations familiales.
Oui.
L'aspect coercitif des allocations familiales ou inversement d'encouragement, j'y crois tout à fait moyennement. En revanche, le prix du loyer ou le coût de la vie, ça c'est une vraie réflexion parce qu'il faut avoir une chambre de plus, une voiture plus grande, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment ça la contrainte.
La suppression des allocations toucherait surtout les familles modestes, les familles monoparentales, les femmes seules, alors que les gens aisés ou même... les allocations actuelles, ça représente très peu, donc ça leur fera rien. Donc ça mettrait encore plus dans la difficulté des familles modestes qui rament.
Il faudrait les laisser au moins aux familles modestes.
Il peut y avoir des conditions, disons, économiques.
Alors, comme on ne va pas être complètement là-dessus, mais en tout cas, bon, c'était tout à fait intéressant aussi. Avant de vous lancer aussi sur la figure, on va dire, de la population mondiale de demain, je voulais savoir si les religions avaient encore un impact par rapport à cela, par rapport donc à la natalité ou pas.
Alors, on surestime beaucoup l'effet de la religion. Partout, Yves Cochet mentionnait le cas de l'Iran.
Mais oui, tout à fait.
C'est un pays qui est étonnant parce que jusque dans les années 80, les Iraniennes avaient 6-7 enfants en moyenne chacune. Alors que le niveau d'instruction avait progressé, c'est un pays relativement aisé, et puis brutalement, en 10 ans, plus vite encore qu'en Chine, la fécondité a baissé de 6 à 2. Donc, en plein régime des mollahs, qui n'étaient pas contre, mais qui pas spécialement pour la contraception. Pourquoi ? C'est parce que tout d'un coup, les femmes, les familles, se sont mises à limiter naissance, principalement parce que la vie est devenue chère. C'est une époque où chute des cours
et
du pétrole.
Et puis même, pays chrétien, pays catholique, Virginie Resson, vous le rappelez aussi, on va prendre l'Espagne, on va prendre l'Italie, il n'y a pas une corrélation directe.
Absolument, hein. la corrélation elle est beaucoup plus socio-économique, on va dire, dans ce cas-là, que apparemment, et sur le statut des femmes, qu'elle est liée à la religion.
Alors, à quoi ressemblera la population mondiale demain, Gilles Pison ?
Alors, on en a parlé, j'ai évoqué les 2 à 3 milliards en plus à prévoir d'ici 2050, et Yves Cochet a rappelé les projections des Nations Unies, 11 milliards en 2100. Alors attendez, c'est des chiffres...
Afrique.
Oui, et dans cet ensemble, l'Afrique... Alors, aujourd'hui, c'est un habitant sur 6 de la planète qui vit en Afrique. Donc, sur les 7 milliards et demi, il y en a 1 milliard 200 millions qui habitent en Afrique. En 2050, les projections des Nations Unies annoncent autour de 10 milliards, dont 2 milliards et demi en Afrique. Donc, un habitant sur 4 habiterait en Afrique.
Avec 40% d'enfants non désirés, c'est ce que j'ai vu.
Alors, justement, c'est là où il y a une marge de progression, mais... ça ne va pas empêcher la population de l'Afrique de doubler d'ici 2050 pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, cette inertie démographique. Il y a beaucoup de jeunes adultes, la population est très jeune, même si tous les Africains maintenant n'avaient que 1,6 enfants comme en Europe, comme en Chine, mais la population continuerait d'augmenter encore pas mal. Voilà. Et alors, c'est intéressant de se pencher sur les projections faites dans le passé. C'est en 1981, que les Nations Unies ont pour la première fois fait des calculs de population se projetant jusqu'en 2100. Et à l'époque, ces projections annonçaient 10 milliards et demi d'habitants. Les dernières projections des Nations Unies de juillet 2017 annoncent 11 milliards 200 millions, donc 0,7 milliards en plus. Le total il est un peu plus élevé, mais le véritable changement, c'est dans la répartition par continent. L'Asie était prévue à 5 milliards 900 millions en 2100, d'après la projection publiée en 1981, donc il y a plus de 35 ans. Elle n'est plus prévue qu'à 4 milliards 800 millions en 2100, dans la dernière projection. La révision à la baisse est également importante pour l'Amérique latine. L'Amérique latine, on prévoyait en 1980 qu'elle aurait 1 milliard 200 millions en 2100. Les nouvelles projections annoncent 700 millions seulement, 40% de réduction. À l'inverse, l'Afrique était annoncée pour 2 milliards 200 millions en 2100, il y a 35 ans. Aujourd'hui, elle est annoncée pour 4 milliards 4, le double. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc, que veulent les projections des démographes ?
Non, mais alors, le total est le même à 40 ans d'intervalle, mais la répartition est totalement différente. Et pourquoi ? À cause de deux surprises. Première surprise, il y a 30-40 ans, les démographes s'aperçoivent que... la fécondité a commencé à baisser en Amérique latine et en Asie, mais beaucoup plus rapidement que ce qu'avaient imaginé les démographes et tous les spécialistes. D'où révision à la baisse, mais très sensible, des projections pour l'Asie et l'Amérique latine. Deuxième surprise, c'est plus récent, l'Afrique. L'Afrique, on s'attendait à ce qu'elle suive un peu le même chemin que les autres continents, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, qu'on adopte la famille de petite taille, et on pensait qu'elle le ferait. Alors plus tard que l'Asie et l'Amérique latine, en raison de son retard dans le progrès socio-économique, mais une fois les évolutions engagées, à la même vitesse.
Et là, ça veut dire, pardonnez-moi, Virginie Resson, ça veut dire, voilà. Pardonnez-moi, sur l'Afrique, c'est-à-dire que si on n'a pas un plan massif d'aide, je veux dire, à l'Afrique, comment faire ?
Moi, je pense que la bonne question démographique, elle est vraiment là. Elle est un continent avec une population qui croît énormément, et ce qui veut dire qu'il faut loger ces personnes-là, il faut qu'elles aient accès à l'eau, il faut qu'elles aient accès aux soins, il faut qu'elles aient accès à l'éducation.
Et je rappelle que dans le monde, vous avez plus, je crois, 2 milliards d'individus qui sont sans latrine, quoi, sans WC.
Absolument. Donc, pour moi, la problématique de la démographie africaine, elle est vraiment dans l'accès, dans la répartition des ressources, et dans l'accès aux ressources, tout simplement, à l'eau potable, etc. etc. Donc, si on ne met pas en place une aide massive, et en particulier, on l'a dit, pour l'éducation, pour la contraception, et pour que les jeunes filles, d'une part, aillent plus longtemps à l'école et choisissent aussi leur fécondité, le résultat, c'est je ne sais pas si c'est ou pas la surpopulation mondiale, en tout cas, c'est énormément de souffrance et des risques de conflits, des risques de tensions, puisqu'en plus, cette région-là du monde est celle qui souffre déjà au départ le plus des dérèglements climatiques et écosystémiques.
Non,
donc, exactement.
C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les projections, disons, doublement entre maintenant et 2100 du nombre éventuel de population en Afrique, c'est qu'il faut que ces gens-là vivent de manière humainement décente. Et si on regarde, disons, le Nord, l'Afrique du Nord, on peut songer que le changement climatique, qui est plutôt vers les 4 degrés de plus, plutôt que les 2 ou 1,5, sera invivable, tout simplement. Invivable, parce qu'il y a une sécheresse telle, autour de la Méditerranée, notamment au sud, qu'on n'aura plus possibilité de se nourrir. On n'a pas encore prononcé le mot, mais je le dis, il y a donc les problèmes de migration, d'émigration, et c'est la même chose pour l'Afrique équatoriale, parce que la forêt, là aussi, disparaît, un petit peu comme en Amazonie. Il y a des richesses minérales, évidemment, qui sont très convoitées, mais il faut pouvoir qu'il y ait un substrat, quand même, disons, agricole, pour nourrir ces populations. On ne peut pas simplement aider de l'extérieur avec les plaines de l'Ukraine ou du Texas. Et donc, il faut qu'il y ait une autosuffisance alimentaire de l'Afrique. On voit mal, au moins dans les projections, disons, agronomiques de l'Afrique, avec le changement climatique, il pourrait y avoir 2,5 milliards d'habitants.
Donc,
ça sera des migrants qui viendront partout. Ils iront d'abord dans les pays asiatiques comme ils vont actuellement, mais aussi chez nous. Et on voit que ce problème de migration, d'émigration, de réfugiés climatiques sera aussi important que le nombre lui-même.
Et au sein même d'ailleurs de la même Afrique, ça, vous avez les migrations aussi, même au sein du même, on va dire, du
surtout d'ailleurs, les migrations aujourd'hui, elles sont majoritairement sud-sud, elles sont beaucoup moins sud-nord.
Quand on parle d'éducation, évidemment, ça concerne filles et garçons, et aussi pour des, alors d'accord, on parle de raisons démographiques, mais pour des raisons morales, ne serait-ce simplement parce que voilà, que chacun a le droit d'apprendre, qu'on soit donc très très clair sur ce sujet. Donc là, on voit bien les sensibilités donc différentes que vous avez donc les uns et les autres. Aujourd'hui, alors les leviers d'action, je crois que vous en avez donc parlé, ces choses-là, c'est quand même très difficile aussi à décréter. Vous avez aussi des gens qui vont vous dire, je vous le disais tout à l'heure, là, vous dire, ah oui, mais attendez, empêcher un enfant de naître, c'est un anti-humanisme aussi. On peut comprendre qu'il y ait quand même beaucoup encore de choses qui heurtent les gens.
Oui, alors moi je m'adresse notamment à un dernier mot, c'est à nos amis féministes, et c'est très bien tout le mouvement qu'il y a depuis mai 68 d'ailleurs, mais aussi après, sur le féminisme. Mais lorsque justement nos amis disaient, eh bien, notre ventre, nous-mêmes, nous avons le droit de choisir, ça n'est pas, à mon avis, un droit individuel ou un droit même du couple. Je crois qu'il faut poser le problème démographique. C'est bien que France Inter fasse ses petites émissions. C'est un problème politique. Donc, oui, il faut que ça soit un débat national sur l'impact de notre mode de vie et donc en relation avec le nombre que nous sommes. Parce que sinon, on va considérer que c'est un droit. Il y a actuellement une loi bioéthique qui est en préparation. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on a le droit à la PMA, à la GPA, etc. Ça concerne la démographie aussi, d'une certaine manière, même marginalement. Eh bien, c'est pas aussi évident que ça que chacun puisse choisir d'avoir 0, 1 ou 2 ou 3 enfants. C'est un problème collectif.
On peut refaire encore une émission facilement, tranquillement. Voilà, mais enfin, bon, on a posé quelques idées. Après, vous en faites ce que vous voulez. La démographie mondiale aux éditions Rue des Écoles est signée Gilles Pison. Un excellent ouvrage qui n'est pas que un ouvrage sur la démographie. Loin de là. C'est formidable pour découvrir vraiment des tas de, comment on va dire, des imbrications les unes.
Oui, la complexité du monde, mais justement pour la rendre accessible. Alors, et graphique.
Voilà, vraiment, que vous fassiez Sciences Po ou pas, allez-y. 2038, les futurs du monde de Virginie Resson, c'est chez Robert Laffont. Et puis, si vous le souhaitez, donc l'anti-manuel d'écologie aux éditions Bréal de Yves Cochet, ainsi que Moins nombreux, plus heureux. Hop là.
Bonjour Denis, le Festival du Livre Jeunesse Occitanie, situé dans la région toulousaine, fêtera sa 16e édition autour de la thématique « Une planète dans mon livre ». Chaque année, nous développons une thématique en lien avec l'actualité. Cette année, donc, sera sur le signe de la planète et de ses enjeux. Pour cela, nous invitons une trentaine d'auteurs jeunesse avec qui nous aborderons le rôle de la littérature jeunesse dans la constitution d'une conscience individuelle et collective et aussi du rapport qu'ils entretiennent avec la planète et ses enjeux environnementaux. Voilà, moi je vous propose de nous retrouver le 27 et 28 janvier 2018 à Saint-Orens-de-Gameville. Pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet festival-livre-jeunesse.fr. Merci, à bientôt.
Mais je vous en prie, on voulait le passer celui-là, donc Festival du Livre et Écologie, dites donc, pour enfants, c'est parfait. D'ailleurs, l'Atelier du Mon Petit Loup, vous le savez, ce sera à 19h54. Après Les Petits Bateaux, ce sera demain à 20h ce soir, si vous avez Ushuaïa TV, Ushuaïa Le Mag, et ben là je serai en compagnie de Daniel Cohn-Bendit. On parlera aussi de démographie, on l'a pas fait exprès, mais enfin ça tombe comme ça. Voilà, donc ça c'est à 20h sur Ushuaïa Le Mag. Merci à Julien Michel, à Raphaël Rousseau, à Camille Blanès, notre assistante, à Xavier Pestulgia qui réalise l'émission, Muriel Pérez, Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Allez-y, regardez le podcast, vous le connaissez, 01 56 40 40 35, et la semaine prochaine, allez, surprise, il y aura plein de choses, plein d'actions donc positives, diverses et variées. Je vous souhaite un excellent week-end, et juste après, ce sera la librairie francophone de l'ami Emmanuel Kérad.